Religion du monde, Geneviève Delrue.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le chiffre a été largement relayé dans les médias la semaine passée. Il faut dire que sa charge symbolique est forte. Les Français qui croient en Dieu sont passés en dessous de la barre des 50%. Selon un sondage IFOP sur le rapport des Français à la religion, commandé par l'AGIR, l'association des journalistes d'information sur les religions, à l'occasion de son centenaire, 49% des sondés ont répondu « croire en Dieu ». Et 51% ne pas y croire. Ces derniers étaient 44% en 2011, donc une progression en France de l'incroyance de 7 points en 10 ans. Et ça n'est pas un hasard des calendriers si deux livres sortent dans le même temps sur ce décrochage et sur les mutations en cours. La fin de la chrétienté, publié aux éditions du Cerf, est signé par la philosophe Chantal Delsol, et aux éditions du Seuil, l'historien Guillaume Cuchet pose la question dans le titre de son dernier essai « Le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France ?» Chantal Delsol et Guillaume Cuchet sont nos invités. Bonjour à tous les deux et merci pour votre présence dans ce studio.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, ce sondage de l'IFOP comporte d'autres questions sur le sentiment ou non religieux des Français en les interrogeant, par exemple, sur la fréquence des discussions sur la religion en famille ou au travail, en demandant si la pandémie du Covid-19 avait eu un impact dans le rapprochement avec une religion. Et il en ressort, donc la confirmation de ce décrochage, une sorte même d'indifférence, même si les jeunes résistent davantage à cette pente générale. Ce sondage a été très relayé et je voudrais connaître à tous deux votre réaction précisément au buzz, en quelque sorte, comme on dit aujourd'hui, qu'a fait ce sondage. Chantal Delsol.
Ce sondage montre bien que la France est une sorte de partie émergée d'un iceberg. Il y a un effondrement de la religion dans l'Occident tout entier. Ça a été aussi analysé par d'autres auteurs pour l'Amérique du Nord. Pour le Canada, par exemple, c'est tellement évident. Et ici... On dit souvent que la France et la République tchèque sont les deux pays les plus athées de l'Europe. Il faudrait d'ailleurs inclure probablement une partie de la Scandinavie aussi. Alors pourquoi ? C'est quand même les deux pays où les guerres de religion ont été les plus violentes. Donc peut-être que quand même il y a un lien. En tout cas, la France est véritablement une sorte de fer de lance de l'incroyance qui vient. Enfin, moi c'est ça qui me vient à l'esprit quand je vois ce sondage.
Guillaume Cuchet.
Oui, alors il y a cette barre symbolique, évidemment, des 50%. C'est toujours un peu... Les historiens, ils sont toujours un peu perplexes devant les sondages sur les croyances. On compte les pratiques. Nous, ça nous paraît plus stable, comme indice, c'est plus sûr. Les croyances, elles varient. Donc, il faut mettre ça en série. Mais effectivement, comme on a une série, il y a bien une tendance au décrochage qui va de pair avec les autres tendances qu'on connaît. C'est-à-dire que c'est pas une surprise. Simplement, dans cette histoire un peu déclinante, il y a des passages de seuil. Tantôt des seuils symboliques, tantôt des seuils réels qui modifient au fond la situation. Là, c'est plus de l'ordre, me semble-t-il, du seuil symbolique qu'autre chose.
Chantal Delsol, votre livre « La fin de la chrétienté » commence par cette phrase, je dois dire assez glaçante, d'ailleurs vous employez ce terme, « Nous n'avons pas encore pris en compte la transformation majeure qui se produit à notre époque, la fin d'une civilisation vieille de 16 siècles. Après maintes hésitations, j'utilise ce mot glaçant, agonie. »
Oui, j'ai utilisé le mot agonie parce que agonie, comme vous savez, veut dire combat. Et au fond, et j'ai essayé de le retracer brièvement, c'est un livre court, dans les premières pages, il y a un combat du christianisme pour ne pas perdre son hégémonie, parce que là je parle de la chrétienté qui est l'hégémonie du christianisme. Il ne s'agit pas du christianisme lui-même, qui certainement s'il est en baisse en France, est peut-être en train de monter ailleurs. Enfin, donc je pense que la chrétienté s'est battue pendant peut-être 2 siècles, 3 siècles, c'est difficile à dire exactement, pour ne pas mourir. Et j'ai essayé d'en retracer les grandes lignes. Donc il y a là un combat. Elle s'est battue avec assez de panache. Hein. Mais là, nous arrivons au bout, et je pense que là, effectivement, depuis... la deuxième moitié du XXe siècle, nous sommes à la fin de cette domination du christianisme sur les lois et les mœurs, qui est la chrétienté.
C'est ça, oui. Oui, définition de la chrétienté, exactement.
La chrétienté, c'est la domination, l'hégémonie du christianisme sur les lois et les mœurs. Et je pense que les lois sur l'IVG, les manifestations pour réclamer la légitimité de l'IVG sont tout à fait caractéristiques, significatives de cette fin de la domination du christianisme sur les lois et les mœurs.
Oui, des points de rupture. Et d'ailleurs, vous vous retrouvez tous les deux, Guillaume Cuchet, Chantal Delsol, sur certaines dates. Là, je remonte un peu avant, c'est la Révolution française. Pour vous, le début du décrochage, en quelque sorte, commence à la Révolution française. Guillaume Cuchet.
La Révolution française ne se serait pas produite si en amont quelque chose ne s'était pas déjà produit. Un événement caché par la façade de catholicisme officiel, en quelque sorte, qu'on date souvent des années 1760, probablement, 1750-1760. Et la Révolution française représente un premier grand décrochage, une rupture de palier très spectaculaire, mais que le catholicisme post-révolutionnaire a réussi à contenir partiellement au début du 19e siècle, et à stabiliser finalement la situation jusque aux années 60, qui représente, à mon avis, dans la longue durée, un autre palier de rupture très différent dans ses causalités. Et nous sommes dans cette séquence-là, celle qui s'est ouverte à ce moment-là dans les années 60 et qui diffère, à mon avis, de la précédente, de la séquence révolutionnaire, en ce sens que on n'arrive pas précisément, l'Église catholique n'arrive pas à bloquer la rupture, c'est-à-dire l'hémorragie se poursuit. Et la deuxième génération est plus décrochante que la première, la troisième que la deuxième. Donc, on en arrive un peu au terme de cette affaire, dans la mesure où ce palier de décrochage se prolonge, au fond, dure déjà depuis 50 ou 60 ans. Mais je crois qu'effectivement, on peut, pour l'ampleur de la rupture, comparer l'étape révolutionnaire et l'étape des années 60.
Chantal Delsol, effectivement, des années, il y a des moments significatifs.
Ça a commencé 68. Largement, effectivement, avant 1789. Enfin, les esprits y étaient préparés parce que la philosophie avait développé ce décrochage. Prenez Vico. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Vico, auteur italien du XVIIe, qui est un précurseur, en fait, des Lumières, et qui commence à dire, mais je le dis très brièvement, beaucoup trop brièvement évidemment, mais au fond, l'anthropologie, la description de l'homme, ne doit pas s'appuyer sur les dogmes de Thomas d'Aquin, mais sur l'existence universelle des humains. Ce que sont les humains, c'est pas ce qu'en dit saint Thomas d'Aquin, c'est ce que sont les humains dans la réalité. Ça, c'est tout à fait prémoderne. Il y a un très grand nombre de choses comme ça, d'auteurs comme ça, d'auteurs brillants, qui préparent les esprits. Et la Révolution, en effet, je suis d'accord avec Guillaume Cuchet, est au fond une conséquence de tout ça. Donc, ça vient de très loin. Il me semble même, enfin, évidemment, c'est très, comme vous dites, la croyance est très difficile à définir. La croyance, c'est tellement intime. Mais moi, j'ai quand même l'impression que beaucoup d'auteurs, déjà depuis le 16e, 17e siècle, n'étaient plus vraiment croyants. Il le disait pas parce que ça ne se disait pas, mais au fond, je pense que la foi avait déjà décliné à ce moment-là.
Et dans le même temps, tous les deux, semble-t-il, vous dites l'homme est un animal religieux.
Ah ben oui, mais il y aura d'autres religions, ça c'est certain.
On en parlera plus tard, oui, Guillaume Cuchet. Animal religieux.
Oui, je dirais le fond de la quête de sens, de consolation, d'espérance, de ritualisation qui fait le fond de la quête religieuse n'a pas disparu avec l'effondrement de notre configuration religieuse. Donc elle se métamorphose, elle se transporte ailleurs, y compris, et pour les historiens que nous sommes, c'est compliqué de suivre cet objet dans ses transferts parce qu'il revêt parfois des formes qui sont tout à fait inédites, qui n'ont pas l'air d'être de la religion mais qui en sont quand même. Dès lors qu'on la regarde de près.
Effectivement, on en parlera tout à l'heure. Mais dans l'immédiat, la question que je me suis posée, en lisant notamment votre livre Chantal Delsol, La fin de la chrétienté, c'est est-ce que ce ne sont pas les monothéismes, en tout cas le monothéisme chrétien, qui portait en lui-même sa disparition ? Je m'explique. En passant du polythéisme au monothéisme, finalement, on n'a pas forcément pris une pente naturelle chez l'homme.
On peut dire que le polythéisme est beaucoup plus répandu que le monothéisme, on peut dire ça. Après, c'est très difficile de dire que quelque chose est naturel ou quelque chose ne l'est pas. Ce qui est sûr, c'est que le monothéisme est venu après, quand même. Et puis, il est plus rare. Et il est finalement...
C'est une exception, vous voulez dire ?
C'est une exception au sens où il n'existe que dans nos contrées, c'est le judéo-christianisme. un peu en Égypte, pour une brève période de temps. Et tandis que le polythéisme, il est absolument universel, il est partout. Et on peut dire, on pourrait dire aujourd'hui que dès que le monothéisme s'efface, on retombe immédiatement. Et comme par une sorte d'élan presque instinctif, je mets entre guillemets, on retombe dans le polythéisme. Donc, effectivement, on peut avoir le sentiment que le monothéisme est une parenthèse.
Guillaume Cuchet ?
Ah là, on est dans des échelles de temps et des perspectives un peu macro qui font un peu peur à l'historien qui travaille sur des séquences courtes et qui hésite à monter en généralité dans ce domaine comme dans le reste. Mais bon, on peut effectivement, dans la très longue durée, penser que en tout cas, si la quête spirituelle se métamorphose mais ne disparaît pas, et que le répertoire des formes possibles de la quête spirituelle n'est pas non plus infini, il y a un certain nombre de formes possibles. On prend les mêmes et on recommence, d'une certaine façon.
Du recyclage, je voulais dire, c'est du recyclage. Hein.
Donc, on recycle, tout en tenant compte quand même de ce qu'on a vécu précédemment. Donc, moi, je crois quand même que si nous entrons dans une ère néo-païenne, notre paganisme est quand même très différent de celui qui a précédé, du précédent. Donc, on ne revient pas complètement à la formule initiale. Mais enfin, on peut imaginer, effectivement, là, je l'avoue que je suis assez loin de mes bases, que dans un répertoire limité de formes religieuses possibles, il y a une redistribution périodique des formes avec une métamorphose partielle. Bon.
Dans l'histoire, avec vous, Chantal Delsol, dans votre livre, finalement, vous dites ce qui arrive au monothéisme chrétien, en l'occurrence, c'est ce que le monothéisme chrétien a fait subir aux Romains, a fait subir aux polythéistes.
Oui, sauf que je me place pas en termes de faire subir. Je suis pas dans la victimisation contemporaine.
C'est pas trop mon truc.
Mais je fais un parallèle entre ce qui s'est passé au IVe siècle et ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il y a une sorte de remplacement à cette époque, et on retrouve aujourd'hui un remplacement en sens inverse. C'était juste pour montrer que il y a eu une inversion normative au IVe siècle, c'est-à-dire que les bases morales ont été, pour ainsi dire, renversées, ce qui était permis a été rendu défendu et inversement, et aujourd'hui, nous sommes dans une inversion normative qui est largement dans l'autre sens. Et bon, ça m'a intéressé de faire cette comparaison en m'aidant du travail des historiens de cette époque-là.
C'était quoi les bases morales au IVe siècle ?
Au IVe siècle, vous étiez dans une société, la société romaine était monogame. Hein. C'est pas le judéo-christianisme qui a apporté la monogamie.
Et pourtant, on peut le croire.
On peut le croire. Ouais. Certains d'ailleurs le croient, mais c'est faux. La monogamie existait chez les Romains. Je serai Caius, tu seras Caia, etc. Mais le divorce était extrêmement répandu. Bien sûr légitimé depuis très longtemps. L'infanticide était répandu. Je fais la comparaison, même ça peut choquer certains, entre l'IVG et l'infanticide, plutôt entre l'IMG et l'infanticide. Hein.
L'IMG, c'est-à-dire
l'interdiction médicale de grossesse, hein. C'est-à-dire que on peut pratiquer un avortement quelques jours avant l'accouchement. Ça me paraît, il me semble qu'on peut comparer avec un infanticide.
Donc ça c'est votre opinion.
Mais c'est oui, bien sûr, mais je précise quand même. Donc l'infanticide était très répandu. Le suicide était considéré comme quelque chose de souhaitable dans certains cas, ce qui peut d'ailleurs se comprendre, bien sûr. Enfin, un certain nombre de choses qui ont été ensuite rendues impossibles ou interdites par le catholicisme. Et aujourd'hui, nous sommes en train de revenir à tout cela.
Par exemple, effectivement, l'euthanasie dont on parle de plus en plus.
Oui, le suicide assisté, oui. Par exemple. Oui. Bien sûr, le divorce rendu très facile et considéré comme souhaitable dans beaucoup de cas. Donc, un certain renversement.
Guillaume Cuchet, je me tourne vers vous, votre essai. Donc, le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France ? Commence par un chapitre sur les baby-boomers, c'est-à-dire en fait la génération qui aujourd'hui a entre 55 et 75 ans. Et vous vous posez cette question, comment cette génération va-t-elle vieillir et surtout mourir, mais mourir sans religion? Expliquez-nous.
Alors c'est une génération que j'avais regardée de près dans un livre précédent sur les grandes ruptures religieuses des années 60-70, parce que je m'étais aperçu dans les statistiques extraordinaires dont dispose l'Église catholique sur le catholicisme des années 50-60, que la génération qui avait vraiment décroché dans son taux de pratique, de ceux qui allaient à la messe le dimanche, c'était ces baby-boomers, pas forcément ceux de première cohorte d'ailleurs, plutôt ceux qui avaient 15 ans en 65, bon, ceux qui étaient à partir de 1950. Et ces gens-là avaient des taux de pratique qui, par rapport aux générations précédentes, étaient très inférieurs. Ils ont décroché. C'est eux qui ont décroché et qui ont inversé la pyramide des âges dans les assistances dominicales. C'est-à-dire que dans les années 50, dans la France des années 50, dans une église, dans les assistances dominicales, il y avait toujours plus d'enfants que de jeunes et de jeunes que d'adultes. La pyramide des âges était saine. Et à partir du milieu des années 60, on voit que la base de ces assistances dominicales commence au contraire à se restreindre.
Donc c'est un phénomène très
majeur,
oui.
Parce que cette génération qui est la génération de la rupture, mais ça nous parle au moins autant de leurs parents que d'eux, hein, c'est un ensemble, en vieillissant, c'est-à-dire qu'en remontant dans la pyramide des âges, elle a fait sauter tous les grands indices de la sociologie du catholicisme. Elle a commencé à moins se marier, elle a moins baptisé ses enfants, bref. Tous les indices de cette sociologie ont fini par s'effondrer. Il en reste un qui est encore très solidement installé, ce sont les obsèques religieuses. Il y a en France aujourd'hui à peu près 70% d'obsèques religieuses, toutes religions confondues, mais elles sont le plus souvent catholiques. Donc ça reste un indice de masse. Et cet indice de masse, évidemment, la question est de savoir s'il va tenir dans la durée. On peut se dire, tiens, il a tenu, peut-être parce que la mort, c'est la dernière chose qu'on lâche en matière religieuse, mais peut-être aussi, et je crois, moi, en grande partie, pour une raison de génération. C'est-à-dire que ceux qui vont mourir maintenant, et ils vont mourir tous ensemble, parce que les baby-boomers sont la première génération qui, dans l'histoire de l'humanité, n'a pas été éliminée à étage par étage, c'est-à-dire comme il n'y a plus de mortalité infanto-juvénile, elle a disparu, elle a achevé de disparaître dans les 10 ans qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, et qu'ils ont été fort heureusement épargnés par les guerres, les épidémies et les famines.
Tout a souri à cette génération,
donc,
le dit souvent.
En un sens, ils sont au complet à 70 ans, à peu près, et c'est la première fois que ça arrive. Et vous regardez la pyramide des âges française, le rectangle, et les pyramides des âges occidentales. Ce rectangle de baby-boomer est au complet. Donc, c'est des mutants sur le plan anthropologique parce que d'un côté, ils ont bénéficié jusque-là d'une sorte de sentiment de sécurité incroyable.
Et d'éternelle jeunesse aussi, oui. Et
presque un sentiment d'immortalité. Et puis, en tout cas, ça les a poussés dans cette pente. Le déni naturel de la mort, qui à mon avis est inhérent à l'esprit humain, a été renforcé par ce phénomène démographique. Seulement, c'est pas tout d'arriver à 70 ans complet. Ensuite, il faut tous disparaître en 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a un effet de rattrapage potentiel, un effet panique, si vous voulez, potentiel d'aval, qui du coup est intéressant, parce qu'il est doublement intéressant. C'est-à-dire, comment on fait pour mourir sans religion? C'est pas tout d'ailleurs de ne pas en avoir soi-même, c'est d'évoluer dans un univers religieux, ou d'une manière ou d'une autre, même si on est soi-même un croyant ou très flottant, la sortie va être en quelque sorte religieuse. Bon. Comment on fait pour mourir sans religion? C'est une première question qu'on peut se poser. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que quand cette génération aura disparu, on verra l'indice, le dernier indice de masse, rejoindre les autres, ce que je crois bien, c'est-à-dire dans 20 ans, à mon avis, tous les indices vont pas arriver au plancher, mais presque. C'est ce dernier indice qui a tenu. Voilà, c'est pour ça que cette génération, à mon avis, est la génération à suivre, parce qu'elle embarque la chrétienté, précisément. Elle embarque cet univers, elle en est la dernière génération subsistante. Elle va probablement encore être enterrée, aller dans des églises assez largement, parce qu'elle boucle la boucle. Elle a commencé son existence en passant par les murs d'une église, et elle va probablement encore très largement la finir en y repassant. Mais ensuite, alors le nouveau monde sera pleinement maître de la place.
Le monde d'après. Vous parlez aussi d'une génération où on meurt beaucoup seul parce qu'il y a eu, alors c'est un joli terme, une dérégulation conjugale, en gros les divorces. Et vous faites, d'ailleurs vous évoquez le film, les deux films hein, de Denis Arcand, c'est ça, c'est québécois, ce cinéaste québécois, oui. Avec Les Invasions barbares, hein, c'était en 2003, et puis Le déclin de l'Empire américain. Et où on voit, alors c'est intéressant, vous parlez de cette épouse qui a été largement trompée, qui va quand même finalement accompagner dans un espèce de, qu'est-ce qu'on peut dire, d'un dévouement post-chrétien, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, qui va accompagner le mari qui, bon, a été le mari infidèle.
Oui, alors ce film, moi j'aime énormément Denis Arcand, ce cinéaste québécois, et on évoquait tout à l'heure le cas du Québec, qui est vraiment un cas exemplaire, parce que à la
de
fois un cas de chrétienté
complet, oui.
très compact, comparable à ce qu'on avait de plus compact chez nous, dans l'ouest de la France ou dans le nord, mais qui va basculer plus rapidement encore que nous. C'est-à-dire qu'en
dizaines
d'années, tout le système est embarqué, donc ils sont très intéressants à observer pour les Occidentaux. Et Denis Arcand, qui a été élevé chez les Jésuites à Montréal dans sa jeunesse et qui en a gardé un bon souvenir d'ailleurs, mais qui est représentatif de sa génération, a fait ses films extraordinaires, Le déclin de l'Empire américain, Les invasions barbares, sur le destin de cette génération. Et il a bien insisté, à mon avis, sur précisément la clé, c'est-à-dire, c'est pas tout de bazarder la religion à 25 ans sur l'autel des différentes libérations auxquelles on souscrit. Ensuite, il faut mourir sans à 80.
Et qu'est-ce
Alors,
qu'on fait
il en prend un qui a 60, qui est le premier sortant de sa génération. Il meurt un peu prématurément par rapport à l'âge moyen. Et il doit faire le test. Et il a la chance d'avoir une épouse qui, elle, est restée calée sur l'ancien standard conjugal et qui, en dépit des glaçantes humiliations qu'on lui a fait subir dans le déclin de l'Empire américain à la fin, c'est un film terrible, revient l'accompagner dans la mort.
Quelques mots, Chantal Delsol, sur le Québec. Hein, vous y faites allusion dans votre livre.
Oui, le Québec est un exemple extraordinaire.
C'est très rapide.
C'est passé à la fin des années 60, en l'espace de quelques années, c'est impressionnant. Je me demande s'il n'est pas en train de se passer la même chose en Pologne.
Rejet ?
Oui.
Face à l'hégémonie...
Face à l'hégémonie cléricale.
Cléricale.
Oui. Je me demande. Mais alors, je voudrais rebondir sur ce que disait Denis Arcand à propos de mourir sans religion. Effectivement, ce que vous dites, cette génération à laquelle j'appartiens, moi je suis typiquement la génération des boomers, née après-guerre, juste après-guerre. Je ne sais pas si c'est pas très occidental de dire on ne peut pas mourir sans religion, parce que est-ce que toute l'Asie ne meurt pas sans religion depuis des millénaires ?
Oui, mais avec spiritualité aussi.
Mais voilà, on peut avoir des spiritualités. Est-ce qu'aujourd'hui, déjà, les spiritualités ne sont pas en train de remplacer la religion qui s'effondre, finalement ? Donc, on peut mourir avec des spiritualités. Et c'est d'ailleurs pour ça que les spiritualités se développent aujourd'hui, je pense. L'épicurisme, enfin pas l'épicurisme tel que le sens commun la comprend, c'est-à-dire jouissons, c'est pas ça l'épicurisme, hein, c'est une véritable sagesse très développée qui est en passe de remplacer en partie la religion qui s'effondre, même si comme vous dites, il y a des traces profondes qui vont demeurer et puis qui vont s'effacer carrément avec les générations d'après.
Vous écoutez Religion du Monde. Nos invités sont Chantal Delsol pour son livre La fin de la chrétienté aux éditions du Cerf et Guillaume Cuchet, Le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France, publié aux éditions du Seuil. Guillaume Cuchet, je me tourne vers vous. Vous avez beaucoup réfléchi, hein, beaucoup analysé ce monde précisément post-chrétien. On vient de parler des baby-boomers. On va parler à présent des nonnes. C'est un terme qui nous vient des États-Unis, c'est-à-dire souvent ces jeunes, hein, majoritairement ces jeunes, sans religion, nonnes.
Voilà, techniquement, les sociologues disent qu'ils sont non-affiliés ou désaffiliés, c'est-à-dire qu'ils ne se reconnaissent aucun lien avec quelque église que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'ils sont incroyants nécessairement, il y a tous les cas de figure, philosophiques et religieux, mais ils n'ont pas de lien reconnu ou reconnu comme tel à une association. Alors, c'est effectivement un des phénomènes, à mon avis, les plus spectaculaires de l'histoire occidentale. C'est-à-dire qu'on est un peu obsédé par les problèmes de l'islamisme, et à juste titre, mais ça nous empêche de voir peut-être ce phénomène plus silencieux et plus massif, qui est la montée dans les jeunes générations d'une incroyance et d'une désaffiliation religieuse qui est devenue majoritaire, voire ultra-majoritaire, au moins dans les pays qu'on évoquait tout à l'heure, effectivement, France, République tchèque, on est à plus de 90% en République tchèque. Bon, donc c'est très spectaculaire. Donc là, ce phénomène, il est majeur parce qu'il introduit, à mon avis, dans notre histoire philosophique, disons, religieuse au sens large, ou spirituelle, une inconnue formidable. C'est-à-dire que personne ne sait, d'abord, si c'est vraiment viable dans la durée, cette affaire, de vivre totalement désaffilié, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Est-ce qu'ils vont se réaffilier ? À quoi ?
Comment ?
Comment ? Donc là, il y a vraiment une inconnue. C'est à la fois, je dirais, une liberté nouvelle pour toute une génération et des failles anciennes qui ont perdu leur mode de gestion traditionnel, je dirais. Donc, des gens qui sont un peu désorbités. Au début, ces nones, c'était une simple catégorie statistique. C'est-à-dire, quand aux États-Unis, on additionnait les cultes, on n'arrivait jamais à 100, il y avait toujours un petit delta de 2-3. Et du coup, au lieu de les appeler les non-affiliés, ce qui était un peu désobligeant, on a fabriqué ce terme, les nones, ceux qui déclarent « no religion » dans les enquêtes, parce que ça faisait des petites créatures plus sympathiques que de les qualifier simplement négativement de non-affiliés. Et puis, à mesure qu'ils se sont répandus et que la position s'est dépénalisée dans les esprits, y compris aux États-Unis, parce que c'est ça qui est spectaculaire, souvent on dit, oui, nous en Europe, la religion dégringole, mais aux États-Unis, ils nous ressemblent à bien des égards, et pourtant ils sont très religieux, eh bien les nones, aujourd'hui, c'est 25% des Américains, c'est-à-dire que nos histoires à nouveau convergent à certains égards. Les nones sont majoritaires dans bien des pays, dans la jeunesse de bien des pays européens.
64%
mais ça monte
en
aussi
France,
beaucoup aux États-Unis. Donc on est vraiment le nouvel aumônier d'Harvard, ai-je lu il n'y a pas très longtemps, est un humaniste qui s'adresse précisément aux nones et tout le monde lui emboîte le pas, les pasteurs, les rabbins, c'est lui le patron. Vous voyez, donc il y a là quelque chose, un phénomène à mon avis extraordinaire dont nul ne peut dire ce qu'il donnera à court ou à moyen terme, mais qui est un élément révolutionnaire, si vous voulez, dans la culture occidentale.
Vous dites très clairement que c'est plus important que l'affirmation, j'allais dire, de l'islam en France.
L'islam en France, ça nous pose des problèmes immédiats de sécurité, il y a des angoisses très palpables. Mais je dirais à terme, alors j'ai pas de boule de cristal, l'historien ne sait pas ce qui va se passer demain ou après-demain. Et puis si l'histoire se réinvite parmi nous, je veux dire l'histoire, la tragédie avec un grand T, alors tout peut se passer. C'est-à-dire que là, pour le coup, la scène peut se reconfigurer. Mais si nos pentes se poursuivent telles quelles, à mon avis, cette montée des nones, c'est un événement plus important que la montée de l'islam parmi nous.
Alors, montée des nones, également le choix du spirituel face au religieux. Donc, effectivement, le spirituel qui peut se manifester de différentes façons. On parlera tout à l'heure peut-être de l'écologie, hein, qui est une sorte de nouvelle religion. Mais ce que vous écrivez, c'est que ce spirituel, aujourd'hui, à travers la méditation, la pleine conscience, etc., enfin, toute cette littérature que l'on peut trouver dans les librairies, eh bien, ce spirituel-là, il est pourtant calme. Et alors que la religion traditionnelle, on va dire, eh bien, c'est pour le gros temps, pour la tempête. Guillaume Cuchet.
Alors, oui, moi, j'essaie de réfléchir. Je suis un peu partie prenante dans cette affaire parce que je suis attaché au christianisme et j'essaie de faire un peu un bilan des avantages et des inconvénients. Qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd en troquant un christianisme constitué, appuyé sur une tradition, contre la religiosité ambiante, qui est surtout une littérature aménagée à ses honnêtes de quelques stages. Mais voilà, qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd? Et il me semble que parmi tous les éléments, je dirais, qui plaident plutôt pour le maintien d'une forme de religion traditionnelle, il y a le fait que cette religiosité ambiante me paraît plus adaptée au temps calme de l'existence, cette sorte de supplément d'âme que s'offre une société matérialiste qui lui permet d'avoir une vie complète, une certaine profondeur existentielle, mais que quand le drame s'invite dans une existence ou dans l'existence collective, à ce moment-là, je suis pas absolument sûr que cette religiosité, en partie parce qu'elle n'est pas capitalisée dans la durée par des générations successives qui se la sont transmises, parce que je crois que l'efficacité anthropologique tient à la transmission et aux morts. C'est les morts qui font à l'instant T, au jour de la crise, l'efficacité du système. Donc, une religiosité ambiante qui est à reconquérir pour chaque génération, pour son propre compte parvenu à l'âge adulte, n'a pas cette capitalisation anthropologique. Et au jour du drame, je ne suis pas certain que le système soit proportionné au drame.
Alors, cela dit, ce qui vient contredire ce que vous venez de nous expliquer, Guillaume Cuchet, je vais vous poser la question, Chantal Delsol, c'est que dans ce sondage de l'IFOP, donc pour l'Agir, il y avait cette question sur l'épidémie du Covid. Est-ce que ça vous a rapproché d'une religion? Globalement, non. Alors qu'on aurait pu penser que cette épidémie soulevait des questions existentielles, Chantal Delsol.
Je ne suis pas si sûre quand même que l'épidémie du Covid nous plonge dans ce qu'on appelle le tragique. Ou bien alors, qu'est-ce que c'est que le tragique? Je veux dire, quand on aura véritablement une guerre ou une épidémie de peste, là oui, on comprendra ce que c'est que le tragique.
Là, vous pensez aux pestes du Moyen-Âge?
Enfin, là, on nous raconte c'est un peu des histoires quand même. Enfin, c'est quand même pas dramatique comme affaire. On l'a rendu dramatique, à mon avis, à tort. Hein, parce que, alors, je comprends très bien que le gouvernant pouvait pas se permettre de voir mourir.
Et puis l'hôpital submergé quand même.
L'hôpital submergé. Bon, je comprends très bien. Mais enfin, pour moi, ce n'est pas ça le tragique. Hein. Le tragique, c'est vraiment quand la vie est vraiment menacée. Et là, je considère pas que la vie était menacée. Tellement plus que de coutume. Ce sont quand même des gens âgés qui sont décédés, qui étaient déjà malades. Enfin, ça me paraît un peu excessif. Alors, cela dit, quand vous parlez de religion pour les périodes tragiques, je pense que le problème, c'est plutôt que nous sommes en période de rupture. Et donc, tout ce que vous avez décrit, c'est la période de rupture. C'est-à-dire qu'on vient de lâcher quelque chose, on n'a pas encore repris autre chose. Et donc, on est un peu flottant. Vous parlez des nonnes, bon, c'est ça. Ce sont des gens qui sont flottants parce qu'ils ont lâché quelque chose, ils n'ont pas encore repris autre chose. Enfin, en tout cas, pas encore de façon sérieuse. Donc, ils sont flottants. Mais quand ils auront récupéré, repris une spiritualité, une autre religion, des polythéismes, une forme de paganisme, tout ce qu'on voudra, bah, à ce moment-là, je pense qu'ils seront prêts à aborder des périodes tragiques. Je pense qu'il n'y a pas que les religions qui peuvent aborder des périodes tragiques, les sagesses aussi, les spiritualités aussi. Vous avez beaucoup de cultures sans religion, pratiquement, enfin, tout dépend de ce qu'on appelle une religion, hein, il faudrait définir plus précisément, et qui tiennent le coup devant le tragique, face au tragique, parce que ils ont des spiritualités.
Vous pensez aux spiritualités asiatiques?
Oui, hein, bien sûr.
Au bouddhisme?
Oui, par exemple. Le bouddhisme, est-ce que c'est pas davantage une spiritualité qu'une religion? Enfin, bon, ça peut se discuter, naturellement.
Guillaume Cuchet.
Oui, alors, bon, sur la question du Covid, moi, je suis assez d'accord avec Mme Del Sol. C'est-à-dire que je crois que le fait que la mortalité dite extraordinaire est complètement disparu de notre horizon. C'est-à-dire qu'autrefois, c'était 50% de la mortalité par les guerres, les épidémies et les disettes. Bon, donc ça, on avait des systèmes culturels et idéologiques qui permettaient de tenir ce genre de choc. On n'a maintenant plus affaire qu'à une mortalité ordinaire, avec une espérance de vie qui s'est beaucoup allongée, et on a désinstallé les grands systèmes culturels qui permettaient de tenir le choc. Quand se produisait une épidémie dans la France du XVIIIe siècle, ça pouvait être 40 ou 50% du village qui disparaissait en 18 mois. Il faut comparer. Donc je pense qu'on a surréagi à cette épidémie. Et cette surréaction est très significative de notre rapport à la mort et de notre rapport au système qui permet de faire face à la tragédie. Après, sur l'affaire des sagesses, moi je crois effectivement, je ne doute pas un seul instant que le bouddhisme ou l'équivalent puisse rendre les mêmes services anthropologiques que le christianisme autrefois chez nous. Simplement, le bouddhisme tel qu'il existe parmi nous, c'est-à-dire un peu désarticulé par son importation et qui ne s'insère pas dans un groupe qui se le transmet de génération en génération qui accumule cette puissance anthropologique, ce bouddhisme-là, à mon avis, ne tient pas le choc quand le choc se produit. Parce que c'est une religion encastrée dans un groupe qui a une efficacité. Et si le groupe n'est pas là, vous savez ce que disait Proudhon au XIXe siècle, il disait au fond, plus l'individualisme fait imploser les groupes, plus l'angoisse de la mort monte. Et il le savait comme jurassien qui avait vu dans les communautés de son enfance ce qu'était une communauté religieuse soudée. Et il sentait que l'individualisme moderne, au fond, nous fragilisait terriblement face à la mort. Donc je ne dis pas du tout que les sagesses n'ont pas cette capacité-là, mais je pense que les sagesses telles qu'elles existent parmi nous dans la phase de transition qui est la nôtre, n'ont pas la capacité de...
Voilà. Oui, d'accord.
La transmission du substrat chrétien, pour vous, est indispensable, si j'ai bien compris Guillaume Cuchet, en lisant votre livre. Ce post-christianisme doit absolument intégrer des éléments, alors peut-être culturels, si les rites ne sont plus pratiqués, mais au moins des éléments culturels.
Oui, alors il faudrait pouvoir s'expliquer sur cette affaire de catholicisme culturel, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'Église catholique en France, en devenant un groupe un peu minoritaire, pourrait redevenir une forme de secte au sens sociologique du terme, c'est-à-dire un petit groupe de gens très convaincus, très conscients de tout ce qui les sépare du monde extérieur. Or, dans ce pays, il y a encore quand même, bon en balance, 50% de Français qui se considèrent comme catholiques, et quand on leur pose la question dans les enquêtes, il y en a les trois quarts qui considèrent que le pays est un pays de culture chrétienne. Qu'est-ce qu'ils entendent exactement par là? On peut se le de Vendée, mais le fait est qu'il y a des restes de cette longue histoire chrétienne parmi nous, et que, pour reprendre un peu une image de Mme Delsol, il y a encore quelques batailles à perdre, à mon avis, avant d'en arriver au type secte de Max Weber, si vous voulez. Oui. On n'en est pas encore tout à fait là, et la vie est une succession de batailles qu'on perd, on vit 80 ans, bon, donc livrons les batailles qui sont les nôtres. Donc mon souci, c'est simplement de dire aux gens, écoutez, c'est pas parce que vous n'avez pas la foi, vous, aujourd'hui, hic et nun, si tant est qu'on sache ce que c'est que d'avoir la foi, et les croyants eux-mêmes l'ont à 10h du matin, et l'ont plus à 14h, la récupèrent à 20h en se couchant. Donc, c'est pas parce que vous n'avez pas la foi que vous devez enterrer le christianisme dans votre famille. C'est-à-dire que le christianisme, c'est une tradition. Si ce n'est pas pour vous, passez-la à la suivante. C'est une tradition sélectionnée dans la longue durée par les plus grands esprits de notre ère culturelle, testée par des grands saints, anthropologiquement. C'est de l'or, c'est le nec plus ultra, à mon avis, de la métaphysique. Vous avez de la chance, vous êtes né à cet endroit-là et vous en avez hérité. Alors si vous n'êtes pas capable de l'assumer ou si vous n'êtes pas d'accord, ça veut dire c'est éviter d'enterrer le christianisme avec vous dans votre famille, comme on le voit dans beaucoup de paroisses françaises aujourd'hui, où aux enterrements, toutes les générations sont réunies et les petits-enfants dans la nef, en enterrant leurs grands-parents, enterrent les derniers chrétiens de la famille, c'est-à-dire enterrent le christianisme dans leur famille avec leurs grands-parents, en demandant aux chrétiens qui restent de le faire à leur place. Ce qui, à mes yeux d'historien et de chrétien, est peut-être une des tragédies les plus tragiques du monde contemporain. C'est-à-dire une perte culturelle. Et ça peut se discuter rationnellement. Ce n'est pas un propos de chrétien. C'est-à-dire, écoutez, quand même, réfléchissez à l'importance de cet héritage. Alors, il y a des raisons à ce déclin. Donc, il faut que chacun fasse son auto-analyse et son autocritique. Mais ça me paraît vraiment dommage. Voilà. Donc, d'où le sens de mon bouquin.
On a peu parlé de l'Église, Chantal Delsol. Vous la décrivez dans votre livre comme défaitiste, en quelque sorte.
Oui, c'est l'impression que j'ai eue. J'ai fait un certain nombre de conférences avant d'écrire ce petit livre sur le sujet, et notamment à des évêques, des clercs. Et je les ai sentis, oui. Défaitiste, oui. Enfin, j'ai eu le sentiment que, bon, pour eux, l'affaire était pliée, comme on dit. Voilà. Donc, ils ont l'impression de ne plus être écoutés. Alors, ça les empêche pas de continuer à parler et d'être souvent assez pontifiants, à mon avis, un peu trop. Mais ils ont le sentiment que, voilà, ils sont plus aimés, c'est fini.
Alors, et même il y a la honte, le sentiment de honte.
En plus, il y a un sentiment de honte, une sorte de culpabilité. Alors, la honte est à la mode, la culpabilité aussi. Collective est à la mode. On a honte de ce qu'on a fait dans le passé, de ce que nos ancêtres ont fait. Enfin bon, il n'y a pas besoin de s'étendre là-dessus davantage, tout le monde le comprend. Et je pense que les clercs, aujourd'hui, ont une sorte de culpabilité, de honte, de ce que l'Église a fait.
De son pouvoir passé, des
missions sous forme de colonisation, de pseudo-colonisation, du syllabus, un certain nombre de choses comme ça. Donc, il y a une volonté de ne plus assumer le passé de l'Église. Enfin, c'est ce que j'ai senti.
À laquelle s'ajoute la crise de la pédophilie.
C'est le coup final. Naturellement. Là, je parlais de la Pologne tout à l'heure, avec qui je suis en lien permanent. C'est vraiment le coup de grâce, quoi. C'est effarant, s'apercevoir que le péché doit être caché et non pas combattu. C'est terrifiant, quoi. Quand les chrétiens se rendent vraiment compte de ça, dans les faits, c'est évidemment presque un coup de grâce, quoi.
Guillaume Cuchet, cette question de la pédophilie.
Sur la question de la pédophilie, bien sûr, je crois qu'on ne peut pas tellement dire autre chose, mais disons, ça vient au terme de ces tendances lourdes et ça peut effectivement fonctionner comme un coup de grâce. Bon, alors, c'est d'autant plus dommageable que beaucoup de gens parmi nous n'ont plus aucune connaissance du clergé, à la fois parce qu'il y en a moins et parce qu'ils n'en ont plus dans leur famille, dans leur environnement, et que par conséquent, ils vivent sur une image du clergé qui leur arrive de l'extérieur pour une large part. et ils sont au fond bien en peine d'équilibrer les révélations fracassantes qu'on leur fait d'un côté par une connaissance plus familière et plus intérieure du clergé réel, si je puis dire, ou plus exactement du clergé dominant, plus largement représenté. Donc c'est ravageur dans ce contexte-là.
À propos du clergé, il y a un passage dans votre livre, Guillaume Cuchet, qui est, je dirais, plein de tendresse pour des prêtres que vous avez rencontrés. C'était aux Herbiers, en Vendée. C'est dans un EHPAD, hein, une sorte d'EHPAD, maison de retraite pour prêtres. Qu'est-ce que ça vous a appris, manifestement?
Ah, ça
m'intéresse. Il s'est passé quelque chose.
Oui, je fais souvent des enquêtes orales quand on fait de l'histoire du temps présent, et la longévité est telle désormais qu'on peut aller interroger des vieux messieurs de 80 ou 90 ans qui vous parlent de leur enfance dans les campagnes françaises des années 30 ou 40, ce qui est presque un voyage chez les Peuls ou les Guaranis, c'est un voyage ethnologique. Hein.
C'est vrai.
Et il y a dans ces maisons de retraite du clergé un savoir, des souvenirs, une mémoire qui devrait intéresser de nos contemporains et les ethnologues. Donc moi, j'ai le réflexe d'aller les voir et de leur parler. Et non seulement je rencontre des gens pleins d'humour, très conscients d'être devenus des Indiens de l'intérieur, mais qui ont en même temps une vision intéressante. C'est un groupe assez réflexif, le clergé. C'est quand même des gens qui sont équipés pour réfléchir, qui ont regardé ce qui se passait autour d'eux. Ils ont des récits générationnels. Le clergé a ses générations successives avec ses mythologies. Bon, voilà. Donc quand vous les laissez raconter un peu, dérouler le récit générationnel, au bout d'une demi-heure, on peut passer aux choses sérieuses. On voit remonter les tas de choses. Et surtout, je découvre des hommes qui, humainement, à la fois vivent des fins d'existence assez fraternelles entre eux dans ces maisons de retraite et s'écoutent mutuellement sur leurs expériences de ministère et sont des gens qui ont... Voilà, je dirais que moi, pour qui j'ai une certaine admiration, en ce sens que faire le choix du sacerdoce, hier et aujourd'hui, dans la société telle qu'elle est, ces sociétés occidentales, c'est quand même un choix de chevalier errant. C'est-à-dire que c'est vraiment, il y a une forme d'héroïsme et il y a une humanité qui mérite d'être connue. C'est des gens qui ne demandent qu'à parler, mais qu'on ne va même pas interroger.
Pour vous, ça dit quelque chose du christianisme?
Bah oui, je raconte justement cette scène d'administration de l'extrême onction, enfin voilà, des scènes très très touchantes de leur ministère. Et c'est le vrai christianisme, à mon avis, se donne à voir ici plutôt que dans ces pathologies accablantes qui occupent le devant de la scène médiatique pour des raisons objectives, hein, bien sûr.
On s'achemine vers la fin de cette émission. Moi, je retiendrai, Chantal Delsol, la dernière phrase de votre livre, où manifestement, vous, en tant que chrétienne, je ne sais pas si vous abdiquez, mais vous dites très clairement, bon voilà, la bataille, de toute façon, elle est perdue. Effectivement, les catholiques seront une minorité. Ce seront finalement les agents secrets, c'est ça, les agents secrets de Dieu?
Mmh. Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que, bon, comme vous savez, comme le sait Guillaume Cuchet aussi bien que moi, on fait souvent la distinction entre vivre en chrétien, vivre comme un chrétien, etc. On peut être des agents secrets au sens où on peut, quand on est croyant, comme vous le dites, c'est pas monolithique d'être croyant. On est souvent croyant le matin, croyant l'après-midi, et à nouveau croyant le soir.
Bon. Et agnostique et aussi.
Agnostique, voilà. Mais on peut très bien être des croyants, enfin se penser comme croyant dans une société incroyante. Et bon, ça peut quand même avoir une incidence, mais je pense qu'on ne sera plus autre chose, on n'aura plus le pouvoir. Moi, je m'insurge quand je vois mes amis de la Manif pour tous, parce que finalement, c'est tout ça, c'est mon milieu quand même, même si je cherche sans cesse à les modérer. Je les trouve parfois un peu extrémistes, mais quand je les vois qui emmènent des enfants de 15 ans crier « on ne lâche rien », je dis « mais arrêtez, on a déjà tout lâché ». Il faut pas faire croire à des enfants de 15 ans qu'on ne lâchera rien, c'est pas vrai. Il faut vivre en ayant tout lâché. Et pour moi, c'est pas dramatique, parce que je pense que l'hégémonie, c'est pas forcément une bonne affaire. Vous savez, psychologiquement, c'est pas tellement bon. Ça vous entraîne dans des catastrophes.
Ça a abîmé le christianisme.
Ça a beaucoup abîmé le christianisme. Donc c'est comme ça. Je ne regrette rien. Je suis pas dans la culpabilité. Mais ça a été comme ça. Il y a eu des belles choses, comme il y a eu des mauvaises choses. Maintenant, on passe à une autre histoire. Il faut la vivre comme telle.
Vous n'êtes pas du tout nostalgique.
Absolument pas.
Pas du tout.
Absolument pas.
Guillaume Cuchet, est-ce que vous allez dans le sens, d'ailleurs, que décrit Chantal Delsol dans son livre, d'un nouveau paganisme en route? Est-ce que, par exemple, l'écologie, pour vous, c'est une nouvelle forme de religion?
Je ne sais pas, ça ne peut pas remplir les fonctions anthropologiques d'une religion, ça peut occuper la place intérieure de la religion, la place idéologique. Nouveau paganisme, en tout cas, c'est vrai que moi je suis assez convaincu par la démonstration d'un del sol, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui reviennent, et elles reviennent un peu transformées, parce qu'on a quand même appris des choses entre-temps, il y a des éléments qui reviennent, d'autres non. Donc il y a probablement dans ce retour au paganisme des distinctions à faire. Moi je pense par exemple à un phénomène auquel j'ai consacré quelques pages dans mon bouquin qui est la crémation par exemple. La crémation, c'est au début des années 1960 en France, quand le pape Jean XXIII a dit que les chrétiens pouvaient éventuellement dans certaines conditions avoir recours à la crémation, on était en 1963, il y avait 0,2% des défunts en France qui étaient incinérés alors que c'était légal depuis 1887. Ça a été réinventé au 19e siècle dans ces procédés industriels. Bon, c'était légal, ça n'intéressait personne. Il y avait que les déchets d'hôpitaux qu'on brûlait. 0,2% des défunts, quelques francs-maçons très très mordus, parce que même chez les francs-maçons, tout le monde se faisait enterrer. Donc c'était vraiment ultra marginal. Et quand Jean XXIII a dit aux chrétiens, bon, bah, écoutez, vous pouvez éventuellement y aller si ça s'impose, de toute façon, ça ne mangeait pas de pain, parce qu'on était à 0,2%. Aujourd'hui, c'est plus du tiers des défunts et la moitié dans les grandes villes. Bon, sous l'Antiquité païenne, on brûlait les morts pour une large part. On a cessé de le faire au 2e, 3e siècle, d'ailleurs. La christianisation a achevé le processus. C'est avant la christianisation qu'on a arrêté de brûler les morts. Bon, on voit revenir la crémation. Ça peut s'interpréter de diverses manières. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un symptôme difficile à interpréter, mais c'est quand même très convergent avec le reste. C'est-à-dire que ça ressemble quand même à la réinstallation de pratiques païennes. Mmh. Qui sont transformés dans les procédés, hein, parce qu'il n'y avait pas les crématoriums industriels d'aujourd'hui. Ouais. L'esprit n'était pas le même, le paganisme antique et le nôtre sont différents. Mais enfin, quand même, ça revient, c'est un beau symptôme.
Oui, bien sûr, bien sûr. C'est l'un des nombreux symptômes, bien sûr.
Quelques mots encore, Chantal Del Sol, sur cette chrétienté hein, qui est l'objet de votre livre. Vous dites très clairement, y renoncer n'est pas un sacrifice.
Il y a une mentalité moderne ou postmoderne, comme on veut, qui nous anime. Nous n'avons plus envie de conquête. Nous n'avons plus envie de régner par la force. Tout ça ne nous intéresse plus. Et on est tous comme ça.
C'est la force du faible.
Peut-être qu'on peut dire ça, bien sûr. Je serais assez d'accord. C'est peut-être la force du faible. Mais enfin, nous sommes tous comme ça. Et les chrétiens comme les autres, enfin, je crois. Et donc, on n'a plus du tout envie d'une hégémonie. En tout cas, d'une hégémonie de conquête, de puissance. C'est pour ça que personne n'a plus envie de coloniser personne. Enfin, en tout cas, dans nos régions occidentales. Et c'est vrai aussi pour le christianisme. Donc, on va passer à, comme vous dites, peut-être à certaines forces que le faible, lui, peut se permettre. Hein. Peut-être une force intérieure, une force spirituelle. Et personnellement, je suis complètement dans mon époque et je suis d'accord avec ça.
Et vous n'êtes pas mal à l'aise dans votre époque?
Absolument
hein.
pas.
Guillaume Cuchet, quelques mots.
Les éléments de culture qui subsistent parmi nous me paraissent mériter d'être préservés en ce sens que la chrétienté comme culture peut avoir des effets de christianisation réelle sur les individus. Et que par conséquent, d'enterrer trop vite cette culture, de la passer par pertes et profits, c'est à mon avis quand même se priver d'un héritage intéressant. Et c'est la raison pour laquelle moi j'essaie de sensibiliser un peu beaucoup de nos concitoyens qui restent attachés à un certain legs chrétien, en leur disant « écoutez, bon, ben, c'est très bien d'être attaché à ce legs chrétien, qui est un christianisme éventuellement de plein exercice, pas simplement les murs de Notre-Dame ou les tableaux de Nicolas Poussin, mais il y a la leçon de nos 50 ou 60 dernières années, c'est que ça ne peut survivre dans la durée, au-delà de la génération de la rupture, que si vous nourrissez cette culture de foi, de pratique, d'attachement, d'allégeance, sans quoi ça va disparaître. Donc que chacun se mette devant ses responsabilités. Si on y tient, il y a des conditions de pérennisation de cette culture qui supposent que chacun se mobilise. On peut ne pas y tenir, on peut, j'allais dire adieu à cette culture chrétienne. Moi, ce n'est pas mon point de vue, mais je conçois très bien qu'on puisse le faire. Il faut être conscient de ce qu'on fait. Il y a des décisions, au fond, à prendre, des décisions spirituelles à prendre, individuellement et collectivement, et on est arrivé au point de rupture. Donc, je vous dis, troisième génération de la rupture, on peut passer sa vie à divorcer avec la religion de son enfance, mais à la troisième génération, on passe à autre chose.
Oui. Elle est déjà recyclée, notre religion. Elle est déjà recyclée dans l'humanitarisme actuel. Elle a déjà été reprise, je pense.
Ce sera votre conclusion, Chantal Del Sol. Je rappelle que vous signez aux éditions du CERF La fin de la chrétienté et Guillaume Cuchet aux éditions du Seuil Le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France ? Je vous remercie.
Merci à vous.
Merci.
Et c'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delru, Véronique Durand, Ludivine Amado vous donnent rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.
Le coq chante.